Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Ensemble, dans cette soirée de lectures en liberté, pour la suite du roman de Georges Perec, Les choses. Il suffisait que quelque chose craque un jour, qu'une agence ferme ses portes, ou qu'on les trouve trop vieux ou trop irréguliers dans leur travail, ou que l'un d'eux tombe malade pour que tout s'écroule. Ils n'avaient rien devant eux, rien derrière eux. Ils pensaient souvent à ce sujet d'angoisse. Ils y revenaient sans cesse malgré eux. Ils se voyaient sans travail pendant des mois entiers, acceptant pour survivre des travaux dérisoires en printemps, quémandant. Alors ils avaient parfois des instants de désespoir intense. Ils rêvaient de bureaux, de places fixes, de journées régulières, de statuts définis. Mais ces images renversées les désespéraient peut-être davantage. Ils ne parvenaient pas, leur semblait-il, à se reconnaître dans le visage, fût-il resplendissant, d'un sédentaire. Ils décidaient qu'ils haïssaient les hiérarchies et que les solutions, miraculeuses ou non, viendraient d'ailleurs du monde de l'histoire. Ils continuaient leur vie cahotante. Elle correspondait à leur pente naturelle. Dans un monde plein d'imperfections, elle n'était pas, ils s'en assuraient sans mal, la plus imparfaite. Ils vivaient au jour le jour. Ils dépensaient en 6 heures ce qu'ils avaient mis 3 jours à gagner. Ils s'empruntaient souvent. Ils mangeaient des frites infâmes, fumaient ensemble leur dernière cigarette, cherchaient parfois pendant 2 heures un ticket de métro, portaient des chemises réformées, écoutaient des disques usés, voyageaient en stop et restaient encore assez fréquemment 5 ou 6 semaines sans changer de drap. Ils n'étaient pas loin de penser que, somme toute, cette vie avait son charme. Quand, ensemble, ils évoquaient leur vie, leurs mœurs, leur avenir, quand avec une sorte de frénésie, ils se livraient tout entiers à la débauche des mondes meilleurs, ils se disaient parfois avec une mélancolie un peu plate qu'ils n'avaient pas les idées claires. Ils posaient sur le monde un regard brouillé, et la lucidité dont ils se réclamaient s'accompagnait souvent de fluctuations incertaines, d'accommodements ambigus et de considérations variées qui tempéraient, minimisaient ou dévalorisaient même une bonne volonté pourtant évidente. Il leur semblait que c'était là une voix ou une absence de voix qui les définissait parfaitement. Et pas seulement eux, mais tous ceux de leur âge. Des générations précédentes, se disaient-ils parfois, avaient sans doute pu parvenir à une conscience plus précise à la fois d'elles-mêmes et du monde qu'elles habitaient. Ils auraient peut-être aimé avoir eu 20 ans pendant la guerre d'Espagne ou pendant la Résistance. À vrai dire, ils en parlaient à leur aise. Il leur semblait que les problèmes qui se posaient alors, les problèmes qu'ils s'imaginaient devoir s'être posés étaient plus clairs, même si la nécessité d'y répondre s'était révélée plus contraignante. Eux n'avaient affaire qu'à des questions piégées. C'était une nostalgie un peu hypocrite. La guerre d'Algérie avait commencé avec eux, elle continuait sous leurs yeux. Elle ne les affectait qu'à peine. Ils agissaient parfois, mais ils se sentaient rarement obligés d'agir. Longtemps, ils ne pensèrent pas que leur vie, leur avenir, leur conception puissent un jour s'en trouver bouleversées. Ceci avait été jadis partiellement vrai. Leurs années d'étudiants les avaient vus participer d'une façon plus spontanée et souvent presque enthousiaste aux meetings et manifestations de rue qui avaient marqué le début de la guerre, les rappels des réservistes et surtout l'avènement du gaullisme. Un rapport presque immédiat s'établissait alors entre ces actions, pour limiter qu'elles fussent, et l'objet auquel elles s'appliquaient. Et l'on aurait pu sérieusement leur reprocher de s'être, en l'occurrence, trompés. La guerre continua. Le gaullisme s'installa. Jérôme et Sylvie abandonnèrent leurs études. Dans les milieux de la publicité, généralement situés d'une façon quasi mythologique à gauche, mais plus aisément définissable par le technocratisme, le culte de l'efficience, de la modernité, de la complexité, le goût de la spéculation prospective, la tendance plutôt démagogique à la sociologie et l'opinion encore assez répandue que les 9/10 des gens étaient des cons, tout juste capables de chanter en chœur les louanges de n'importe quoi ou de n'importe qui dans le milieu de la publicité, donc il était de bon ton de mépriser toute politique à la petite semaine et de n'embrasser l'histoire que par siècle. Il se trouva d'ailleurs qu'en tout état de cause, le gaullisme était une réponse adéquate, infiniment plus dynamique que ce que l'on avait d'abord partout proclamé qu'il serait, et dont le danger était chaque fois ailleurs que là où on croyait le trouver. La guerre continuait pourtant, même si elle ne leur semblait être qu'un épisode, qu'un fait presque secondaire. Certes, ils avaient mauvaise conscience, mais en fin de compte, ils ne se sentaient plus responsables que dans la mesure où ils se souvenaient avoir jadis été concernés, ou bien parce qu'ils adhéraient presque par habitude à des impératifs moraux d'une portée très générale. Ils auraient pu mesurer à cette indifférence la vanité ou peut-être même la veulerie d'un bon nombre de leurs ardeurs. Mais là n'était pas la question. Ils avaient vu, presque avec surprise, quelques-uns de leurs anciens amis se lancer timidement ou à corps perdu dans l'aide au FLN. Ils avaient mal compris pourquoi, ne parvenant à prendre au sérieux ni une explication romantique qui les amusait plutôt, ni une explication politique qui leur échappait presque complètement, ils avaient quant à eux résolu le problème d'une façon beaucoup plus simple. Jérôme et trois de ses amis, s'aidant d'appuis précieux et de certificats de complaisance, réussirent à temps à se faire réformer. C'est la guerre d'Algérie pourtant, et elle seule, qui pendant presque 2 ans les protégea d'eux-mêmes. Ils auraient pu, après tout, vieillir plus mal ou plus vite. Mais ce n'est ni à leur décision, ni à leur volonté, ni même, quoi qu'ils aient pu en dire à leur sens de l'humour, qu'ils durent d'échapper quelque temps encore à un avenir qu'ils peignaient complaisamment aux couleurs les plus sombres. Les événements qui, en 1961 et en 1962, du putsch d'Alger aux morts de Charonne, marquèrent la fin de la guerre, leur firent oublier, ou plutôt mettre, entre parenthèses, momentanément, mais avec une efficacité singulière, leurs préoccupations coutumières. Les pronostics les plus pessimistes, la peur de ne jamais s'en sortir, de finir dans le vaseux, dans les triquets, apparurent certains jours comme beaucoup moins redoutables que ce qui se passait sous leurs yeux, que ce qui les menaçait chaque jour. Ce fut une époque triste et violente. Des ménagères stockaient les kilos de sucre, les bouteilles d'huile, les boîtes de thon, de café, de lait concentré. Des escouades de gardes mobiles casqués, vêtus de ciré noir, chaussés de brodequins, le mousqueton à la main, longeaient lentement le boulevard Sébastopol. Parce qu'à l'arrière de leur voiture traînaient souvent quelques vieux numéros de journaux, dont ils avaient tout lieu de croire que certains esprits chatouilleux les trouveraient démoralisateurs, subversifs ou simplement libéraux. Le Monde, Libération, France Observateur. Il arrivait même à Jérôme, à Sylvie ou à leurs amis d'éprouver des craintes furtives et d'avoir des fantasmes inquiétants. On les suivait. On relevait le numéro de leur véhicule. On les épiait, on leur tendait un piège. 5 légionnaires avinés leur tombaient sur le poil et les laissaient pour morts sur le pavé humide au tournant d'une rue noire dans un quartier malfamé. Cette irruption du martyr dans leur vie quotidienne, qui tournait parfois à l'obsession et qui, leur semblait-il, était caractéristique d'une certaine attitude collective, donnait toujours aux événements, aux pensées, une coloration particulière. Des images de sang, d'explosions, de violence, de terreur, les accompagnaient en tout temps. Il pouvait sembler certains jours qu'ils étaient prêts à tout, mais le lendemain, la vie était fragile, l'avenir sombre. Ils rêvaient d'exil, de campagne, de lentes croisières. Ils auraient aimé vivre en Angleterre, où la police a la réputation d'être respectueuse de la personne humaine. Et pendant tout l'hiver, au fur et à mesure que l'on s'acheminait vers le cessez-le-feu, ils rêvèrent du printemps à venir, des vacances à venir, de l'année suivante, lorsque, comme disaient les journaux, ce serait apaiser les passions fratricides, lorsqu'il serait à nouveau possible de flâner, de se promener dans la nuit, le cœur tranquille, le corps sain et sauf.
Toujours vivre la passion natale, la passion natale. Avec toi, il faudrait toujours jouer. Tu voudrais que je sois espagnol, que je chante en farandole. Les airs de flamenco. Tu voudrais que j'aie un habit d'or, le regard de Matador, de Rudolph Valentino. Avec toi, il faudrait toujours dire. Avec toi, il faudrait toujours dire. Oh, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Tu voudrais que je sois andalou, que je tombe à tes genoux avec une corde au cou. Tu voudrais que je sois riche et beau, racé comme un hidalgo qui n'a pas peur des taureaux. Avec toi, il faudrait toujours vivre.
La passion est là, la passion est là, la passion est là.
Avec toi, il faudrait toujours jouer. Des lilas, et j'ai la passionata sur les fortifications. Je n'ai pas de châteaux en Espagne, mes pays sont de cocagne, je travaille chez Pano. Oh,
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Les choses de Georges Perec, suite. La pression des événements les amena à prendre position. Certes, leur engagement ne fut qu'épidermique. À aucun moment, ils ne se sentirent fondamentalement concernés. Leur conscience politique, pour autant qu'elle existât en tant que telle, comme forme organisée et réflexive, et non comme magma d'opinion plus ou moins orientée, se situait, pensait-il, en deçà ou au-delà du problème algérien, au niveau de choix plus utopiques que réels, au niveau de débats généraux qui n'avaient guère de chance, il le reconnaissait tout en le regrettant, de déboucher sur une pratique concertée. Néanmoins, ils entrèrent au comité antifasciste qui venait de se créer dans leur quartier. Ils se levèrent quelquefois à 5 heures du matin pour aller, avec 3 ou 4 autres, coller des affiches appelant les gens à se montrer vigilants, dénonçant les coupables et les complices, stigmatisant les lâches attentats, honorant les victimes innocentes. Ils firent passer des pétitions dans toutes les maisons de leur rue. Ils allèrent 3 ou 4 fois monter la garde dans des immeubles menacés. Ils prirent part à quelques manifestations. Ces jours-là, les autobus roulaient sans plaque, les cafés fermaient tôt, les gens se dépêchaient de rentrer. Toute la journée, ils avaient peur. Ils sortaient, mal à l'aise. Il était 5 heures. Une pluie fine tombait. Ils regardaient les autres manifestants avec des petits sourires crispés. Cherchaient leurs amis, essayaient de parler d'autre chose. Puis, les cortèges se formaient, s'ébranlaient, s'arrêtaient. Du milieu de leur foule, ils voyaient devant eux une grande zone d'asphalte humide et lugubre, puis, sur toute la largeur du boulevard, la ligne noire épaisse des CRS. Des files de camions bleu nuit, aux vitres grillagées, passaient au loin. Ils piétinaient. Se tenant la main, moite de sueur, osait à peine crier, se dispersait en courant au premier signal. Ce n'était pas grand-chose. Ils en étaient les premiers conscients et se demandaient souvent au milieu de la cohue ce qu'ils faisaient là, dans le froid, sous la pluie, dans ces quartiers sinistres, la Bastille, la Nation, l'Hôtel de Ville. Ils auraient aimé que quelque chose leur prouve que ce qu'ils faisaient était important, nécessaire, irremplaçable, que leurs efforts peureux avaient un sens pour eux, étaient quelque chose dont ils avaient besoin, quelque chose qui pouvait les aider à se connaître, à se transformer, à vivre. Mais non, leur vraie vie était ailleurs, dans un avenir proche ou lointain, plein de menaces lui aussi, mais de menaces plus subtiles, plus sournoises. Des pièges impalpables, des raies enchantées. L'attentat d'ici les Moulineaux et la brève manifestation qui lui fit suite marquèrent la fin de leurs activités militantes. Le comité antifasciste de leur quartier se réunit encore une fois et prit l'engagement d'intensifier son action. Mais, à la veille des vacances, la simple vigilance semblait même n'avoir plus de raison d'être. Il n'aurait su dire exactement ce qui avait changé avec la fin de la guerre. Il leur sembla longtemps que la seule impression qu'ils pouvaient ressentir était celle d'un achèvement, d'une fin, d'une conclusion. Non pas un « happy end », non pas un coup de théâtre, mais au contraire, une fin languissante, mélancolique, laissant derrière elle un sentiment de vide, d'amertume, noyant dans l'ombre les souvenirs. Du temps s'était traîné, s'était enfui, un âge était révolu, la paix était revenue, une paix qu'il n'avait jamais connue, la guerre s'achevait. 7 années d'un seul coup basculaient dans le passé. Leurs années d'étudiants, les années de leurs rencontres, les meilleures années de leur vie. Peut-être rien n'avait-il changé. Il leur arrivait encore de se mettre à leur fenêtre, de regarder la cour, les petits jardins, le marronnier, d'écouter chanter les oiseaux. D'autres livres, d'autres disques étaient venus s'empiler sur les étagères branlantes. Le diamant de l'électrophone commençait à être usé. Leur travail était toujours le même. Ils refaisaient les mêmes enquêtes que 3 ans auparavant. Comment vous rasez-vous ? Cirez-vous vos chaussures ? Ils avaient vu et revu des films, fait quelques voyages, découvert d'autres restaurants. Ils avaient acheté des chemises et des chaussures, des chandails et des jupes, des assiettes, des draps, des babioles. Ce qu'il y avait de nouveau était tellement insidieux, tellement flou, tellement lié à leur unique histoire, à leur rêve. Ils étaient là. Ils avaient vieilli, oui. Ils avaient l'impression, certains jours, qu'ils n'avaient pas encore commencé à vivre. Mais de plus en plus, la vie qu'ils menaient leur semblait fragile, éphémère. Et ils se sentaient sans force, comme si l'attente, la gêne, l'étroitesse les avaient usés. Comme si tout avait été naturel. Les désirs inassouvis, les joies imparfaites, le temps perdu. Ils auraient voulu parfois que tout dure, que rien ne bouge. Ils n'auraient qu'à se laisser aller. Leur vie les bercerait. Elle s'étendrait au fil des mois tout au long de l'année, sans changer presque, sans jamais les contraindre. Elle ne serait que la suite harmonieuse des journées et des nuits, une modulation presque imperceptible, la reprise incessante des mêmes thèmes, un bonheur continu. Une saveur perpétuée que nul bouleversement, nul événement tragique, nulle péripétie ne remettrait en question. D'autres fois, ils n'en pouvaient plus. Ils voulaient se battre et vaincre. Ils voulaient lutter, conquérir leur bonheur. Mais comment lutter ? Contre qui ? Contre quoi ? Ils vivaient dans un monde étrange et chatoyant, l'univers miroitant de la civilisation mercantile, les prisons de l'abondance, les pièges fascinants du bonheur. Où étaient les dangers ? Où étaient les menaces ? Des millions d'hommes jadis se sont battus et même se battent encore pour du pain. Jérôme et Sylvie ne croyaient guère que l'on pût se battre pour des divans Chesterfield. Mais c'eût été pourtant le mot d'ordre qui les aurait le plus facilement mobilisés. Rien ne les concernait, leur semblait-il, dans les programmes, dans les plans. Ils se moquaient des retraites avancées, des vacances allongées, des repas de midi gratuits, des semaines de 30 heures. Ils voulaient la surabondance. Ils rêvaient de platine clément, de plages désertes pour eux seuls, de tours du monde, de palaces. L'ennemi était invisible. Ou plutôt, il était en eux. Il les avait pourris, gangrénés, ravagés. Ils étaient les dindons de la farce. De petits êtres dociles, les fidèles reflets d'un monde qui les narguait. Ils étaient enfoncés jusqu'au cou dans un gâteau dont ils n'auraient jamais que les miettes. Longtemps, les crises qu'ils avaient traversées n'avaient entamé qu'à peine leur bonne humeur. Elles ne leur semblaient pas fatales. Elles ne remettaient rien en cause. Ils se disaient souvent que l'amitié les protégeait. La cohésion du groupe constituait une garantie sûre, un point de repère stable, une force sur laquelle ils pouvaient compter. Ils sentaient qu'ils avaient raison parce qu'ils se savaient solidaires. Et ils n'aimaient rien tant que d'être réunis chez l'un ou l'autre, certains fins de mois particulièrement difficiles à tabler, devant une potée de pommes de terre au lard et partageant le plus fraternellement possible leur dernière cigarette. mais les amitiés aussi s'effilochaient. Certains soirs, dans le champ clos de leur pièce exiguë, les couples réunis s'affrontaient du regard et de la voix. Certains soirs, ils comprenaient enfin que leur si belle amitié, leur vocabulaire presque initiatique, leurs gags intimes, ce monde commun, ce langage commun, ces gestes communs qu'ils avaient forgés ne renvoyaient à rien. C'était un univers ratatiné, un monde à bout de souffle qui ne débouchait sur rien. Leur vie n'était pas conquête, elle était effritement, dispersion. Ils se rendaient compte alors à quel point ils étaient condamnés à l'habitude, à l'inertie. Ils s'ennuyaient ensemble, comme si entre eux il n'y avait jamais eu que le vide. Longtemps, les jeux de mots, les beuveries, les balades en forêt, les grands repas, les longues discussions autour d'un film, les projets, les racontars, leur avaient tenu lieu d'aventures, d'histoires, de vérités. Mais ce n'étaient que des phrases creuses, des gestes vides, sans densité, sans ouverture, sans avenir. Des mots mille fois répétés, des mains mille fois serrées, un rituel qui ne les protégeait plus. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Georges Perec, Les Choses, que nous retrouverons la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.